Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, votre podcast 100% polar de Bipolar. Et aujourd'hui, on va travailler un petit peu votre culture polar en revenant sur un film qui est passé dans la culture populaire, rien que le titre, évidemment, vous le connaissez, mais je vais en parler avec Jérémy Gallet, mon complice pour cette culture polar cinéma. Bonjour Jérémy.
Salut Jérôme.
Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Harry, un ami qui nous veut du bien, un film de Dominique Moll qui est sorti en 2000. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi?
Alors, je l'ai choisi parce que ça représente une date dans l'histoire du thriller français. C'est effectivement un titre qui a fait date parce que Harry a un ami qui vous veut du bien, c'est une expression qui a été très déclinée hein, à partir de l'expression justement qui vous veut du bien. Et après, on a mis un peu n'importe quoi derrière, mais c'est surtout un film qui a renouvelé le thriller en subissant, enfin, en faisant valoir des influences qui viennent à la fois de Chabrol, de Kubrick, de David Lynch et surtout d'Alfred Hitchcock, comme on pourra le voir tout à l'heure.
C'est un film de 2000, un film tout en clair-obscur, écrit notamment avec par Dominique Moll et par Gilles Marchand. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire? Harry, c'est cet ami qui rencontre Michel et qui met un peu Michel sur un piédestal jusqu'à un petit peu la nausée.
Voilà, donc en fait, il faut partir du début du film. Hein. Le début du film, c'est une voiture, la première scène, une voiture, une famille, le père, la mère, trois enfants en bas âge. Et puis, des enfants qui sont sur le départ avec leurs parents, et puis des enfants qui s'impatientent, des enfants qui crient, des enfants que le père et la mère ont du mal à contrôler. Il y a l'énervement du père, il y a la fatigue de la mère, et donc une cellule familiale, j'allais dire, traditionnelle, qui est tout de suite présenté comme un problème. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dans cette cellule que va s'immiscer le personnage de Harry, qui est en fait un ancien camarade de lycée de Michel, qui est donc l'un des personnages principaux qui est joué par Laurent Lucas. Et Harry va rencontrer Michel fortuitement sur une aire d'autoroute dans les toilettes. Et à partir de là, il va devenir une sorte de faux ami, mais on en dira plus après.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Michel avait quelques talents un petit peu d'écriture. Harry se souvient que Michel écrivait très bien et à partir de ce moment-là, il va se mettre en tête de ressusciter un petit peu le talent de Michel, en tout cas la fibre que Michel pouvait avoir pour l'écriture. C'est tout en clair-obscur avec ce lien entre Michel et Harry. Donc on a compris qu'Harry, le titre évidemment, s'il veut du bien, ça va pas très bien se passer, mais aussi avec les épouses, la femme Claire de Michel et puis la compagne de Harry. C'est un jeu à quatre temps.
C'est ça, c'est exactement ça. Il y a quatre personnages et puis il y a cette problématique que tu as très bien rappelée, qui est la problématique de l'écriture, pardon. Harry croit en son ami. Harry lui rappelle qu'il était potentiellement un écrivain de talent et puis bon, bah, il a écrit, Michel a écrit dans le journal du lycée, il n'a pas persévéré et en fait, il y a un premier repas à quatre puisque Michel va inviter son ami et puis il y a ce repas dans cette résidence qui est perdue, vraiment perdue au fin fond du Cantal et qui sont en train de rénover. Et il y a cette scène de repas absolument hallucinante où Harry va se souvenir par cœur d'un des textes qui avait été écrit par Michel il y a bien des années. C'est de là que va commencer cette relation. Et tu parlais des femmes, effectivement, elles ont un rôle important. Il y a l'épouse de Michel, il y a la compagne d'Harry, Harold, de son vrai nom. Alors, les situations ne sont pas tout à fait les mêmes parce que je parlais de cellules familiales traditionnelles d'un côté, et puis de couple qui n'a pas d'enfant et de couple qui d'ailleurs, enfin, du côté d'Harry en tout cas, il n'y a pas de désir d'enfant. Et voilà, cette espèce de relation à quatre va donner un film qui va devenir de plus en plus inquiétant.
Ouais, c'est toute une relation oppressante. Évidemment, la référence à Hitchcock et l'attente, hein, parce que pour le coup, c'est une histoire d'amitié qui dérive. C'est une histoire d'amitié insistante, mais c'est pas une violence à tous les étages, comme on peut voir dans les polars aujourd'hui, hein. Ça saigne pas de la première à la dernière minute. Tout se met en place très progressivement.
C'est ça, il y a un crescendo très hitchcockien, il y a une montée de l'angoisse et les scènes de violence, parce qu'il y a quand même des scènes de violence, mis à part une scène plus spectaculaire, mais qui ne dure pas très longtemps, les scènes de violence sont plutôt ellipsées. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur le bonus d'un DVD, il y a la scène, il y a une scène de meurtre qui avait été tournée, et puis finalement Dominique Moll a décidé de la couper au montage parce qu'il préférait suggérer plutôt que de montrer, et c'est beaucoup plus efficace évidemment comme ça, même si on voit les effets du meurtre commis par Rich, non, je n'en dirai pas plus pour préserver le suspense. Mais il y a ce crescendo effectivement, et on bascule à partir du premier meurtre, qui est un double meurtre d'ailleurs, je ne vais pas dire qui est tué, on bascule dans une forme d'irrationnel, alors là, pour le coup, qui est très, très, une atmosphère très lynchienne et une forme de surnaturel, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une dimension fantastique dans ce film, et cette dimension dans ce film, elle s'incarne dans un thème qui est éminemment fantastique, qui est le thème du double.
Ouais.
Finalement, Harry est le double de Michel. On peut l'interpréter comme ça. Il y a une lecture psychanalytique qui peut être faite dès le début, dès la rencontre, à partir du moment où ils se rencontrent, comme je le disais, dans les toilettes de cette aire d'autoroute. Michel est face au miroir, donc il y a son image qui se réfléchit. Et puis, il y a le personnage de Harry qui fait irruption. Et puis, si on a une lecture psychanalytique, pour reprendre un vocabulaire freudien, Harry, c'est un petit peu le ça. De Michel, c'est son inconscient, c'est sa mauvaise conscience, c'est ce qu'il voudrait être et qu'il n'a pas pu être, c'est tout ce qu'il voudrait faire et qui est interdit, y compris, alors là, on est sur des zones très, très, très dangereuses et très, très glissantes, qui sont même des zones scandaleuses. Je n'en dirai pas plus parce que ce serait révéler le contenu du film.
Ouais, c'est vrai que tout est en clair-obscur, c'est ce qu'on disait dès le départ, parce que il y a notamment l'antagonisme Michel et Harry, mais il y a aussi l'antagonisme entre Michel et sa femme Claire, qui semble beaucoup plus lumineuse que Michel au départ, et puis il y a Prune, qui est la femme d'Harry, qui semble, elle, un petit peu effacée, donc même dans les couples, il y a une forme de dualité qui se reflète.
Voilà, il y a une dualité qui se reflète et qui mène à des conflits et qui va même mener à pire que des conflits. Et là encore, je vais pas dévoiler le contenu du film. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Michel semble coincé dans une forme de vie de famille qui au bout d'un moment, va l'aliéner. Et puis Harry, et c'est ce révélateur. Il y a la problématique des parents. Les parents sont très présents, mais en même temps, ses parents traitent encore Michel comme un enfant. Et Michel est obligé de rappeler à son père qu'il a 34 ans, qu'il faut plus lui parler comme un petit garçon. Et il va se jouer aussi quelque chose autour des parents. Et puis la femme. L'épouse de Michel n'a pas le même caractère du tout. Elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus solaire, et Michel est quelqu'un de plus introverti. Harry, c'est aussi l'inverse de Michel. C'est véritablement son révélateur. Et puis il y a Prune, qui est un personnage très effacé et qui, en fait, souhaiterait la vie. La vie, cette vie de famille que Harry ne lui offrira jamais, puisque Harry ne veut pas d'enfant, et que Harry est. Et quelqu'un qui d'ailleurs va faire imploser la cellule familiale. Enfin, en tout cas, momentanément.
Est-ce que c'est aussi donc on a compris, c'est le désir refoulé, c'est le désir presque trouble un petit peu d'Harry pour Michel, une forme d'obsession qui pourrait confiner à autre chose presque que de l'amitié, non? Est-ce qu'il y a cette
Oui,
thématique-là?
bien sûr, on y pense pendant tout. Bien sûr, c'est très trouble aussi parce qu'il y a une relation amicale, mais qui, en tout cas, du côté de Harry, flirte avec une forme de relation amoureuse. Harry ne veut Michel que pour lui. Et Harry est complètement amoureux du talent de Michel, mais peut-être même plus que du talent de Michel lui-même à travers son talent. Donc, voilà, c'est cette espèce d'intrication complètement complexe qui est intéressante parce qu'on a un récit à étage, on a un récit qui fraye avec les limites, on a un récit qui fraye avec l'interdit. Et ça, évidemment, ça donne des films très, très intéressants.
Alors évidemment il y a les acteurs et le jeu d'acteurs hein, parce qu'on se souvient pas tant de Michel mais surtout d'Harry de Sergi Lopez et puis aussi de la femme de Michel Claire qui est incarnée par Mathilde Seigner. Michel c'est Laurent Lucas pour être tout à fait complet et Prune c'est Sophie Guillemin. Comment tu les juges toi les acteurs dans ce clair-obscur?
Bah, ils sont tous les quatre très très bons, chacun jouant sa partition. Laurent Lucas dans un rôle d'introverti qui est complètement dépassé par la situation et puis qui à un moment donné quand même à la fin du film, là encore sans trop en dire, reprend la main, on ne dira pas comment. Il y a le personnage d'Harry, c'est quand même, j'allais dire, le héros du film, alors, qui n'est pas un héros. Comment dire, unanimement maléfique, même si la portée de ses actions est absolument terrible. Mais lui a vraiment l'impression, a vraiment l'intention de faire du bien. C'est ça qui est très troublant. Donc là aussi, il y a une espèce de construction intéressante. Et donc, Sergi López, qui ne devait pas incarner le rôle au départ, c'est même Alain Chabat qui avait été pressenti, est absolument stupéfiant, bien loin de ses premiers rôles qui étaient des rôles plutôt associés à des comédies. Avec une espèce d'incarnation tout à fait glaçante, ne serait-ce que par le regard, regard souvent tristé, regard souvent de biais, une espèce de regard presque à la Clint Eastwood, avec des yeux qui se plissent et des yeux inquiétants. On a Mathilde Seigner qui est, je dirais, très convaincante dans le rôle d'une épouse qui est, sans être extravertie, est une épouse solaire. Mais qui en même temps devient une épouse inquiète, étant donné les événements. Puis on a Sophie Guimard, qui est plus en retrait, mais qui est absolument touchante dans le rôle d'une jeune femme qui finalement aurait ce désir de famille, mais qui n'accédera jamais à ce désir par la faute de Harry.
Il y a aussi un petit mot de l'ambiance, tu l'as dit. Il y a la manière dont c'est tourné, mais il y a aussi la musique qui est très présente. C'est une bande originale de David Whittaker. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette musique-là, s'il faut en dire quelque chose?
Alors, ce qui est déjà intéressant avec David Whittaker, c'est que c'est un compositeur attitré de la Hammer, qui était quand même le studio qui a produit tous les classiques des films d'horreur dans les années 60-70. Donc, c'est quelqu'un qui est très habitué à ce genre d'ambiance horrifique. On a une partition qui est une partition très chabrolienne, dans le sens où on a des espèces de violons dissonants et puis, en même temps, on pense à Bernard Herrmann, le compositeur attitré du Hitchcock. Donc, tout cela participe de cette atmosphère très inquiétante. Et en même temps, c'est une forme d'hommage jusque dans cette partition musicale à ce qui a pu constituer les ambiances des films qui sont les références de Dominic Paul. Parce que c'est évidemment le film d'un cinéaste cultivé, un cinéaste qui connaît ses classiques et qui sait en même temps mélanger ses classiques, enfin, mélanger les influences de ses classiques. Et puis, il y a cette petite valse à la fin, petite valse qui rappelle irrésistiblement la valse, alors c'est une valse de Dolores del Río, et qui rappelle la valse dans le générique de fin de Shining, auquel on pense beaucoup. Une espèce de petite valse ironique d'ailleurs, étant donné ce qui s'est passé et les événements qui se sont passés. Là encore, j'invite les personnes qui n'ont pas vu le film à se faire une idée par elles-mêmes pour juger de la valeur ironique de cette partition musicale.
Alors, il faut dire un mot des images aussi, hein, parce que Dominic Moll, c'est le réalisateur de La Nuit du 12, hein, plus récemment pour nous, hein, ce film qui est sorti l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, exactement. Comment est-ce qu'il filme ce tango à quatre temps, cette valse à quatre temps, entre guillemets, avec les quatre personnages?
Eh bien, il y a là encore une espèce de diversité qui consiste à, bon, pendant les scènes de repas, par exemple, à privilégier des chants contre chants. Et en même temps, on a, quand la caméra se resserre, notamment autour du personnage de Harry, une caméra plus tournoyante, une caméra plus inquiétante. Je pense en particulier, après le premier meurtre, la manière dont la caméra saisit Harry, qui est tranquillement assis en train de regarder le paysage, et on a cette caméra qui se déplace autour. Donc on voit d'abord la nuque du personnage, puis on le voit de face, et puis en arrière-plan on voit le personnage de Michel qui apprend la terrible nouvelle. Je ne dirais pas quelle est cette nouvelle, mais elle est terrible. Voilà, donc on a une diversité au niveau de cette manière de filmer, et en même temps on a des plans qui sont des hommages aux références dont je parlais, Chabrol, Kubrick. On a évidemment cette plongée sur la voiture qui serpente dans la forêt. Ça rappelle le début de Shining, hein, c'est le premier plan de Shining. Voilà, donc toutes ces références m'asserrent. dans un hommage qui n'est pas simplement qu'un hommage, parce que c'est aussi et avant tout un scénario qui est un scénario de thriller absolument terrifiant, mais en même temps un film qui est un film d'une grande ironie et d'une grande perversité. Et c'est ce qu'on aime aussi au cinéma quand on est protégé par la fiction, parce que évidemment, la fiction fait de nous un spectateur pervers recommandable, puisqu'on est protégé par le fait que ça, tout cela n'existe pas.
Est-ce qu'il y a des correspondances avec La Nuit du 12? Est-ce qu'il y a un style Dominique Moll? Il y a des choses qui se retrouvent de film en film. Il n'a pas fait que ces deux-là, hein, évidemment, mais est-ce qu'il y a un lien?
Oui, alors il y a un lien dans le, je dirais, dans l'aspect, alors toujours l'aspect thriller, l'aspect inquiétant, l'aspect paranoïaque, qui peut, qui est une marque de fabrique chez Dominique Moll. Donc oui, il y a cette constance, je dirais, au niveau de la paranoïa, au niveau de ce qu'on ne maîtrise pas et qui flirte bien évidemment avec le fantastique. On retrouvait ça notamment dans le troisième long métrage d'ailleurs de Dominique Moll, celui qui est sorti à quelques années après Harry. C'est Lemming,
Lemming,
sorti en
ouais,
2005,
2005.
où on retrouvait Lemming, ouais, Lemming, 2005, voilà, où on retrouvait cette forme d'atmosphère qui croise, je dirais, la paranoïa et puis le thème de la famille, qui est un thème important pour Dominique Moll.
Bon, est-ce que Harry, un ami qui vous veut du bien, a gardé sa force aujourd'hui dans cette scène un petit peu troublante?
Eh bien, pour avoir revu ce film récemment, je dirais que oui, c'est un film qui n'a pas vieilli, c'est un film qui, par ses thématiques, demeure contemporain. Ça dit beaucoup de choses sur la famille, ça dit beaucoup de choses sur ce que peut être alors la famille traditionnelle et puis le couple aussi en tant que structure à la fois. Je dirais, relation qui peut être aliénante, la famille en tant que structure aliénante aussi, et puis tout ce que ça peut engendrer chez un personnage qui est un personnage à un moment donné qui va être tenté de franchir les limites pour se débarrasser d'une vie que peut-être il ne voulait pas et réaliser des rêves que va lui rappeler par sa présence.
Ouais,
Donc oui, tout ça, ce sont des thématiques qui de toute façon sont contemporaines.
ouais, ça reste quand même extrêmement puissant. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci à toi.
Hein, je rappelle, je ne l'ai pas encore dit, mais que Harry, un ami qui vous veut du bien, est disponible sur Canal+, si vous êtes abonné. Et puis vous pouvez aussi le commander en VOD sur Canal, sur Universciné et sur Arte Boutique. Merci à tous et à toutes. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez aimé, si vous recommandez ce Harry, un ami qui vous veut du bien, qui a remporté 4 Césars, qui a eu un succès, un très joli succès à sa sortie. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, votre podcast 100% polar. Bonne journée à tous et à toutes.